France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. Je dois vous dire que je suis très ému en commençant cette émission parce qu'on vient de l'apprendre par la bouche d'Émilie Rodolphe, justement, il y a quelques minutes, la disparition du baryton français Franck Ferrari. Je ne sais pas dans quelle situation cette disparition est survenue. On savait qu'il était malade, c'est certainement les suites de cette maladie. Je n'en sais pas plus, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était un personnage merveilleux que je recevais très régulièrement. On n'en reparlera pas dans cette émission aujourd'hui. On n'a pas eu le temps d'y réagir, tout simplement, même si on aurait bien voulu, mais ce sera pour demain, je vous le promets, dans le casque et l'enclume avec mes amis critiques. Nous reviendrons sur cette disparition et sur Franck Ferrari, sur ce chanteur formidable qui vient tout juste de nous quitter. Mais puisque nous avions prévu aujourd'hui d'être avec Laurence Equilbé, on va tenir cette promesse-là, dédier l'émission du jour à la mémoire de Franck, et puis jusqu'à 13h, causer bien sûr, action tous. par un beau talatsoin de soin. Mais moi, j'aime bien les talatsoin de soin. Le cum sancto spiritu de la petite messe solennelle de Rossini, c'était Ottavio Danton et qui dirigeait l'orchestre de chambre de Paris. Et le chœur Accentus de Laurence Equilbé, bien sûr. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Alors, c'est pas vous qui dirigez ici, mais j'ai choisi ce disque pour plein de raisons. D'abord, parce que moi, j'adore la petite messe solennelle, que là, on tient une très jolie version. Vous aimez pas trop cette musique-là, c'est ça?
Si, mais c'est vrai que l'expression des messes, moi, je m'arrête souvent aux messes salzbourgeoises de Mozart quand il avait 19 ans, quand les choses sont dites une fois et pas trop de décorum et tout ça. Après, j'ai un peu plus de mal, mais c'est plutôt ce rapport texte du commun de la messe et de l'expression musicale. Voilà, je trouve qu'à ce moment-là, autant faire du théâtre, autant faire des choses plus profanes, ou pourquoi dire Kyrie eleison avec autant d'emphase.
D'accord. Voilà, mais donc la messe du 19e, vous n'aimez pas?
Pas trop les messes du 19e, non. Voilà.
Messe bourgeoise, dit-elle.
Ça y est, je suis découverte.
Mais non, mais vous avez le droit. Attendez, on est pour avoir des goûts, faut avoir des dégoûts aussi. Donc
ça me dégoûte pas quand même. Je
comprends.
Très beau quand même.
Mais enfin bon, Requiem de Verdi, par exemple, vous le feriez pas celui-là?
Pas forcément, en priorité. En tout cas.
Pas en priorité. On a bien saisi. Deuxième raison d'écouter ceci, bien sûr, le chœur Accentus que vous laissez sur ce disque naïf. Enfin, vous laissiez il y a quelques bons mois, déjà un an peut-être, à Ottavio Danton. Vous le laissez pas mal aujourd'hui, Accentus d'ailleurs, hein, Laurence.
Oui. Ben, je suis assez contente de l'évolution. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, c'est toujours intéressant qu'un groupe ait des chefs invités. Vous savez, les orchestres savent ça mieux que personne. Donc, moi, j'ai un peu un statut de chef fondatrice. Pas encore chef honoraire, parce que je suis encore jeune, mais disons que. Un peu éméritus comme ça d'avoir fondé le groupe, je m'en occupe encore beaucoup évidemment, mais ce qui est intéressant c'est que notamment dans le répertoire a cappella, il y a des chefs qui vont apporter des répertoires que moi je n'aime pas par exemple et que les chanteurs ont droit d'exprimer. Donc ça me fait plaisir de leur ouvrir une porte. Et puis sinon le répertoire que moi j'ai beaucoup pratiqué, on peut apporter un nouvel éclairage. Donc ça c'est toujours intéressant aussi pour eux, je pense. Et puis effectivement sur l'opéra et l'oratorio, c'est très ouvert. Alors moi j'en fais pas mal avec eux, mais ils en font aussi avec d'autres chefs. Et c'est vrai que maintenant, c'est un ensemble qui a 20 ans. Hein, donc, heureusement que l'artistique se rénove et se régénère. Et je garde un lien fort avec ce groupe, évidemment, mais c'est pas tout à fait comme s'il avait 2 ans d'âge. Voilà.
Vous dites 20 ans, mais enfin, ce sera 25 l'année prochaine.
Hein, oui, c'est vrai.
Son quart de siècle.
Oui, c'est bientôt. Ouais, c'est vrai.
Ah, c'est pas rien. C'est quand même une formidable réussite, Accentus, qui est la vôtre, bien sûr, celle des chanteurs, celle des équipes autour. Mais enfin, quand même, vous avez fait plein de choses avec ça, une trentaine de disques, créé véritablement du répertoire, en particulier du côté de la création. Vous avez même surtout créé, avec Accentus, un modèle de chœur, finalement, à la française.
Je sais pas. En tout cas, on a plutôt. Réhabiliter surtout un effectif de chœur de chambre qui a une quarantaine de chanteurs avec une esthétique qui, pour le coup, il y a du français dedans, mais aussi beaucoup de germanique et de nordique. Cette espèce de sonorité qu'on aime bien, à la fois claire harmoniquement, mais aussi très chaleureuse. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai importé à l'époque, mais qui existait un petit peu déjà en France. Hein, mais disons que c'est vrai que, et aussi grâce au soutien de plusieurs partenaires privés et publics, tout d'un coup, plusieurs ensembles ont pu émerger et qu'effectivement, maintenant, on revient presque à une forme de tradition d'exécution. Et ça, c'est pour me faire plaisir. Bon, cela dit, j'encourage quand même tous les ensembles à exprimer le grand répertoire, les grosses pièces. Il faut se frotter aux pièces difficiles et pouvoir les exprimer et les travailler. C'est ça qui fait aussi que le niveau va se maintenir.
Ouais, c'est une fierté quand même, Accentus, pour vous, j'imagine, Laurence Equilbé. Mais enfin, la question, quand on a réussi quelque chose, qu'on l'a mené à bien, pas à terme, parce qu'il n'y a pas de terme dans ces cas-là, et on sent bien que vous passez la main d'une manière ou d'une autre aussi à d'autres qui auraient envie de diriger ce chœur. Mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est la question aussi.
L'ambition maintenant, en tout cas pour Accentus, c'est que ça devienne vraiment quelque chose d'assez semi-institutionnel pour penser vraiment à l'avenir et aussi quand d'autres chefs prendront peut-être la relève. Je suis en train de réfléchir très fortement à créer un centre de ressources, notamment pour partager toutes nos richesses qu'on a pu accumuler au fil des années.
Richesses en quoi? Partition, c'est ça?
Répertoire rare, enregistrement rare, mais surtout matériel d'exécution, conseils sur le répertoire, notamment pour, par exemple, les chœurs de jeunes, les chœurs d'amateurs. Voilà, qu'il y ait un vrai centre, qu'on soit un vrai pôle de ressources pour tous ces gens, soit qui montent des ensembles, soit qui ont besoin de conseils, soit qui ont besoin de matériel. Moi, je me rappelle qu'un des problèmes cruciaux, il y a 25 ans, c'était, je fais un programme suédois, comment je fais pour qu'on soit professionnel dans l'expression du suédois, voilà, et c'est moi qui payais la coach, etc., etc. Bon, ça, c'était un peu les années galères, comme on dit, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ce répertoire et tout ce matériel qui existe, on aurait vraiment envie d'en faire profiter, et on est en train d'essayer de créer ça avec des partenaires.
Et pour vous, alors, l'avenir? Enfin, pour vous, en tant que Laurence Equilbé?
Oui.
Parce que vous me parlez de celui d'Accentus, et l'avenir de chef d'orchestre, déjà?
Déjà, ça fait déjà une dizaine d'années que, de toute façon, je mène une carrière de chef d'orchestre aussi. J'ai un peu plus équilibré les répertoires maintenant. C'est vraiment une question aussi de répertoire. Donc, je suis assez invitée par des orchestres modernes. J'ai d'abord une relation privilégiée avec l'orchestre de Rouen, Normandie et l'orchestre de Chambre de Paris. Mais pas seulement. Maintenant, j'étais invitée à Leipzig à Noël. Je vais à Francfort l'année prochaine, etc., en Angleterre. Donc, j'ai des invitations régulières. Et puis, surtout, donc, j'ai créé récemment, avec le partenariat du département des Hauts-de-Seine, cet orchestre sur instrument d'époque, Insul Orchestra, qui a donc, lui, 2 ans et demi maintenant.
Mmh. Et, qui lui est tout jeune.
Voilà, qui lui est tout jeune et avec lequel on a beaucoup aussi de projets ensemble, à la fois en symphonique, mais aussi en lyrique et en oratorio.
Ben ça, on va y revenir, Laurence. Le maître du jour, vous m'avez beaucoup parlé d'Erickson, bien évidemment, grand maître de la vocalité, du chœur. Vous en avez choisi un autre pour aujourd'hui, un certain Arnoncourt. Petite symphonie de jeunesse de Mozart, Köchel 97, c'était donc Nikolaus Arnoncourt qui dirigeait ici le Concertus Musicus de Vienne. Lorsque je vous ai demandé, Laurence Equilbé, un maître ancien, un professeur, un aîné, quelque chose, c'est lui qui est venu pour aujourd'hui.
Bah, c'est vrai que je dois beaucoup à Arnoncourt, d'abord dans mes années viennoises, d'études viennoises. C'était un des chefs, bon, il y avait des grands chefs, il y avait Abbado, il y avait Bernstein, etc. Mais avec Arnoncourt, d'abord j'ai travaillé sous sa direction, ce qui était quand même un privilège. Et puis récemment, là, j'étais encore à Vienne pour voir un concert qu'il donnait au Musikverein, parce qu'il donnait 2 symphonies de Beethoven, la 4e et la 5e, avec son ensemble Concertus Musicus. Et je trouvais ça hyper émouvant parce qu'il a 85 ans et c'était la première fois qu'il donnait ses symphonies avec son ensemble. Donc je dis, quelle humilité quand même, parce qu'il les a enregistrées moult fois, notamment avec le Concertgebouw d'Amsterdam, donc sur instrument moderne. Mais donc c'est la première fois qu'il les donnait avec des instruments d'époque. Et c'était assez bouleversant, parce que d'abord c'était une lecture incroyablement raffinée, et puis en même temps fragile, et je trouvais que prendre ces risques-là, c'était quand même étonnant.
Il passait sa vie à prendre des risques, lui, en fait. Hein.
Oui, et en même temps, c'est vraiment une star, parce qu'il prend le micro devant le public, et il explique pourquoi le thème de la 5e, etc. Il s'amuse, il fait rire tout le monde. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, à la fois dans sa rigueur scientifique et en même temps, on pourrait presque dire sa fantaisie, en tout cas son imagination très 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 forte.
Les instruments anciens, ce sont ceux du Concertus Musicus, bien sûr, ceux aussi de l'orchestre Insula, le vôtre, Laurence Equilbe. Je ne savais pas, en fait, avant de vous voir créer cet orchestre, que vous aviez vraiment cette sensibilité-là.
Oui, oui, bah, c'est-à-dire que c'est même plus que ça. Moi, toute la musique, évidemment, baroque ancienne, mais je dirais jusqu'au pré-romantisme, j'ai une tendance à préférer les sonorités anciennes. Bon, alors, en même temps, ça se mérite, c'est difficile parce que c'est des instruments... maintenant, on a dans l'oreille des canons aussi, de lignes de force. On peut pas non plus gommer les 200 ans qui sont arrivés. Donc, il faut faire souvent quelques compromis. Mais en tout cas, jusqu'à Beethoven, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les couleurs que ça suggère. Là, on arrive à avoir une meilleure balance bien plus facilement. Et surtout, la culture des musiciens, parce que c'est des musiciens qui arrivent souvent avec une culture... par exemple, si vous faites le 18e, vous avez souvent des artistes qui ont une culture 17e assez forte. Et ça, je trouve ça indispensable d'avoir ce recul dans la culture musicale. Et puis,
c'est-à-dire de prendre la musique pas par le futur, mais vraiment par le passé.
Je pense que dans une équipe, il faut un mélange. Il faut à la fois ceux qui savent très bien ce qui s'est passé après. Il vous faut des baroqueux purs et durs parce que qui savent exactement tout. Les pratiques d'exécution, les techniques d'exécution sont quand même absolument fondamentales dans cette musique. En tout cas, dans le début du 18e. Et puis, effectivement, les balances, la plastique du son, Tout ça est différent. Et moi, par exemple, Haydn, je chaque fois que des orchestres modernes me proposent, je dis « Ah, je suis désolée, mais non ». C'est presque infaisable, parce qu'on n'arrive pas à avoir à sculpter comme on le souhaite. Et il faut vraiment avoir une connaissance du style, bon, que ces musiciens peuvent avoir, mais c'est quand même plus difficile. Donc c'est vrai qu'en plus, moi j'ai eu la chance de travailler avec Arnaud Cour beaucoup. J'ai beaucoup travaillé en son temps avec l'Académie for Alte Musik de Berlin, avec le Concerto Köln, avec Orchestre of the Age of the de Londres, et tout ce qui est ce répertoire-là, le siècle des Lumières et puis le pré-romantisme, j'adore le faire avec ces instruments-là.
Mais vous dites bien, sur une période très particulière aussi, qui est fin 18e, début 19e...
Oui, enfin, alors la musique baroque, évidemment, ça c'est Bach et avant, c'est sur instrument d'époque, pour moi ça c'est sans question. Ouais. Mais c'est vrai que l'époque où on peut encore discuter... Haydn, Mozart, Schubert. Moi, bon, je trouve que après, par exemple, sur le jeune Mendelssohn, même Beethoven, ça peut s'entendre, évidemment, sur un instrument moderne. Hein. Et puis après, je préconise plutôt les instruments modernes. Je serais pas de celles qui iront faire Dvorak ou plus loin même de Debussy sur un instrument d'époque. Ça m'intéresse pas tellement. Ou alors, faut le double de répétition, je pense.
Alors voici le Requiem de Mozart, c'est votre antépénultième disque, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui nous était arrivé chez Naïve lui aussi.
Ouais,
et on
va
entendre là l'Insula Orchestra et le chœur Accentus dans le Conte Futatis.
Thank you.
Le Conte Futatis, du Requiem de Mozart, l'ensemble Accentus, l'Insula Orchestra, Laurence Equilbet à la baguette, disque paru il y a quelques mois sur la belle Naïve, très beau Requiem, avec une force, avec une énergie aussi qui est bien de quelque chose qui vient du baroque, quand même. Enfin, de ce mouvement-là. Hein.
Ah oui, mais d'ailleurs, dans ce Requiem, il y a beaucoup de citations hein, du style un petit peu antérieur. Mmh. Et on a enregistré ça à la Chapelle Royale de Versailles, c'était une grande chance parce que c'est quand même une acoustique et surtout une inspiration fantastique pour cette œuvre qui est très très connue. Donc évidemment, j'ai essayé de trouver une interprétation qui puisse être, c'est peut-être immodeste de dire ça, mais un peu universelle. J'ai pas cherché à faire quelque chose de très spécial comme a pu faire Kourensis ou des gens comme ça. Et j'ai essayé de chercher que chacun se retrouve dans cette vision, tout en étant très rigoureuse sur les sources, parce que vous savez que c'est tellement compliqué ce Requiem, qui a écrit quoi, etc. D'ailleurs, on avait fait une petite web-série à l'époque pour essayer de décrypter un petit peu les mystères de ce Requiem.
Ouais. Il y en a beaucoup des mystères là-dedans. C'est marrant parce que dans les versions dites entre guillemets baroques, très souvent c'est du tranchant, voire du dur, et on marque en quelque sorte la modernité par quelque chose qui irait brutaliser en quelque sorte l'auditeur. C'est pas du tout le cas ici. On a l'impression que ça revient par les basses et puis par le chant aussi.
Bah, notamment, c'est vrai que moi j'aime quand même plus l'ampleur que la sécheresse, mais ça m'empêche pas de temps en temps d'avoir des choses assez acerbes. Mais ce qui relativise beaucoup quand même dans les visions musicales, c'est l'acoustique parce que. Ouais. Vous savez, j'ai dirigé à Salzbourg la grande messe en ut mineur dans l'église où Mozart l'a créée. Donc, tout d'un coup, vous vous dites, ah oui, et juste des tempi, vous avez pas tellement le choix.
Pourquoi?
Parce que ça, il y a une réverbération de dingue.
Ah oui.
Donc, en fait,
vous êtes obligé de prendre plus lent, c'est ça?
Oui, c'est ça. On est obligé de prendre quand même des tempi plus commodes, qui respectent la réverbération des harmonies. Et c'est un peu le cas dans la Chapelle Royale. Donc, tout d'un coup, on est dans ces interprétations, effectivement, peut-être moins nerveuses, mais bon, qui ont leur réalité à la fois artistique et acoustique.
L'Insula Orchestra qu'on vient d'entendre là, il y a donc des musiciens là-dedans, bien sûr. Qui sont-ils réunis depuis 2012, c'est ça?
Oui, ça c'est intéressant parce que d'abord j'ai réuni une équipe de chefs d'attaque que je connaissais, dont ma violon solo Stéphanie Paulet, puis donc tous les chefs d'attaque des cordes et quelques vents que je connaissais, qui sont des jeunes seniors, on va dire. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on auditionne régulièrement, notamment des cordes, pour essayer d'ouvrir à des fines lames qui viendraient de toutes les institutions européennes spécialisées qui ont envie d'intégrer nos groupes. Donc il y a un mélange de jeunes qui arrivent dans la profession et de musiciens confirmés.
Ce qui est curieux aujourd'hui, enfin ce qui est curieux, notable dans notre période, c'est que quand on veut créer un orchestre comme ça, bon, faut trouver les fonds, les financements, ça c'est compliqué. En revanche, les musiciens, il y a beaucoup de très bons musiciens qui sont très plastiques, qui peuvent aller en effet dans des répertoires comme ça, avec une connaissance déjà très aboutie, même quand ils sont jeunes, de la manière de jouer à l'ancienne.
Oui, ben maintenant, il y a vraiment des formations de haut niveau un peu partout en Europe sur cette pratique d'exécution. Et donc, effectivement, on trouve de plus en plus de musiciens historiquement informés, comme on dit. Mais il faut aussi choisir des musiciens qui soient conscients aussi de la technique du 19e. Ça, c'est très important parce que il y a maintenant une exigence technique même de ces musiques-là qui est très très forte aujourd'hui. Donc,
et qui manquerait plus aujourd'hui que la connaissance du répertoire à la baroque?
Non, c'est-à-dire, je pense que la technique a beaucoup évolué et peut-être les musiciens qui ne pratiqueraient que le 17e ou 18e, notamment dans les partitions d'orchestre, c'est peut-être parfois ça pourrait peut-être un peu les bloquer pour la suite. Donc voilà, donc il faut. Je pense qu'un savant mélange de toutes ces personnalités est vraiment bienvenu.
France Musique. Le magazine à midi 26 avec aujourd'hui Laurence Equilbet et un coup de cœur du jour, c'est pour un certain Gluck, dirigé par René Jacobs. Pourquoi cet Orfeo, Laurence?
Alors, il se trouve que l'Orfeo, ça a été un grand projet là, pour les deux dernières saisons, avec Insula Orchestra et Accentus, parce qu'on vient de l'enregistrer en live avec Franco Fagioli dans le rôle titre, qui est un contre-ténor absolument merveilleux. Et Malena Artelius et aussi Emmanuel de Negri. Et donc, c'est un disque qui va sortir à l'automne chez Deutsche Grammophon. Et on l'avait donné il y a 2 ans pour faire une première expérience. Et puis ensuite, on a recréé cette production. Et j'aime beaucoup cette œuvre. Moi, j'ai une tendresse particulière pour cette œuvre. C'est une des premières œuvres que j'ai chantées en tant qu'étudiante quand j'étais étudiante à la Sorbonne, au début de mes études. Et puis, j'aime beaucoup la version originale en italien de Gluck, avec ce poète Calzabigi qui a vraiment essayé de changer les habitudes de l'opéra. Et puis, ce que j'aime bien dans ce projet aussi, c'est que on a essayé de créer toute une constellation de propositions artistiques, dont une nouvelle web série qui paraîtra en septembre, et puis un clip qu'on a commandé à une agence graphique qui s'appelle Super Bien, qui d'habitude fait plutôt de l'événementiel, mais qui se tourne maintenant vers le spectacle vivant, et qui était justement sur ce titre qui est pour Hochschild, c'est le moment où Gluck découvre le paradis de l'Antiquité, donc les Champs-Élysées. Et je trouve ces 5 minutes dans l'opéra de Gluck qui sont vraiment une merveille absolue.
Thank you. sera questo che mi viene a incontrar stuolo felice.
Un extrait d'Orphée Eurydice de Gluck, version René Jacobs, et c'était ici Bernarda Fink qu'on entendait chanter le rôle d'Orfeo, votre version, donc Laurence Aquilbet sortira, vous nous l'avez dit, au mois de septembre. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là, oui. Avec le magnifique Franco Fagioli.
Ce sera la version de 62, la version 10-762 originale en italien, ouais. Mais je précise qu'il y aura quand même un disque de, comment on dit, highlights, des extraits, aussi de la version de Paris, parce que dans la version française Paris, Gluck vraiment rajoute quelques tubes, dont le grand solo de flûte très connu, dont la danse des furies, et puis dont
l'air de s'en passer de tout cela.
Le fameux air de bravoure d'Orfeo, et donc on a rajouté ça dans un disque spécial.
Le questionnaire de Proust pour vous, Laurence Aquilbet, pourquoi ?
Je ne sais pas ce que je voulais remplir il y a longtemps.
Mais oui, il y a longtemps, c'est vrai que notre émission avait été annulée pour cause de grève il y a 2 mois, donc du coup, je vous donnais en tout cas les réponses que vous me donniez à l'époque, et puis si vous avez envie de changer. Ce que vous voudriez être, alors ça m'avait étonné quand même, vous m'avez mis metteur en scène.
En fait, j'adore la mise en scène. J'ai dû mettre metteuse en scène, même.
Metteuse, absolument, oui.
Voilà, je préfère. Et donc, non, mais je dis ça parce que j'aime beaucoup la dramaturgie, les scénarios. J'aime beaucoup la scène. Hein. Donc, je pense que peut-être, si je me réincarne, j'espère, je peux peut-être faire plutôt un métier dans cette direction-là.
D'accord, mais ça peut être une troisième partie de carrière après chef d'orchestre.
Non, ça, par contre, je pense pas. Parce que je pense que d'abord, un métier, faut savoir en crever. Genre, dans le sens, il faut savoir avoir faim pour ce métier, je pense, qu'on ne peut pas s'improviser comme ça, à l'âge de la maturité, tout d'un coup, je deviens écrivain, Ça, je n'y crois pas trop, sauf vraiment talent particulier, mais... Non, ce que j'aime bien faire, ça je le fais souvent, c'est participer à la dramaturgie d'un projet scénique. Ça, je le fais systématiquement dans les opéras, ça, je suis vraiment en phase, très très liée avec le metteur en scène en général. Et puis, il y a aussi des projets spécifiques. Par exemple, je viens de faire Atalin Mandelson, où j'ai travaillé avec le dramaturge Christian Bier, qui est un professeur 17e fantastique, pour la remise en situation, par exemple, de certaines musiques de scène. Tout ce qui est dramaturgie, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime bien donner ma petite touche dans des mises en scène, mais vraiment de façon très modeste, puis des idées, surtout notamment parfois quand c'est pour faire un peu rire ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'adore
juste
ça.
Juste ta petite touche.
Oui, voilà.
Votre auteur favori, vous m'aviez cité Henri Michaux, et d'ailleurs je vois que vous avez amené un livre qui ressemble à du Henri Michaux, non, c'est pas ça.
Je lis surtout de la poésie parce que malheureusement j'ai peu de temps pour lire des romans parce que vous savez dans nos métiers on doit lire beaucoup d'essais, beaucoup de choses très musicologiques, tout ça un peu assommante et donc enfin parfois d'ailleurs passionnante, pourquoi pas. Mais c'est vrai que la littérature c'est plus réservé à quelques moments privilégiés l'été ou c'est-à-dire couper un roman c'est assez énervant, le couper en 2 ou 3 fois ça va, mais si vous devez mettre je sais pas 10 jours à lire c'est pas très marrant. Donc je préfère lire un peu de poésie, ça me nourrit. Non, là en fait j'avais Maurice Blanchard, en fait là vous avez dit Henri Michaux, mais j'aime beaucoup aussi Maurice Blanchard, donc voilà, par exemple j'avais ce livre qui est un peu abîmé là, dans mon sac, mais la première phrase c'est assez saisissant, il dit « Il y a ce couteau dans ma gorge oublié par la création ». Voilà, ça commence bien.
Ça donne envie de dire la suite quand même, voilà. Sans voir ce qu'il y aura derrière.
Non, mais après il finit « Je pardonne à Dieu mes offenses ». C'est pas mal aussi.
Alors c'est marrant parce que ça rejoint peut-être la question et réponse suivante. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence, et vous me répondiez, la mégalomanie.
Oui, parce que j'aime bien les gens qui rêvent, j'aime bien les parachutistes, c'est-à-dire ceux qui partent du rêve le plus fou, puis tout d'un coup ils descendent petit à petit, poco à poco, mais... Ça me dérange pas trop d'avoir des gens qui ont des... Enfin, peut-être mégalomanes, si on va dans l'extrême, ça peut être un défaut. Hein. Mais j'aime bien les rêveurs et les grands rêveurs.
Vous l'êtes vous-même, d'ailleurs ?
Ah, moi, je suis complètement dingue.
Complètement, d'accord.
Ah oui, mais moi, il me faut 4 projets de vent, sinon j'étouffe. Et il faut que ça soit énorme, il faut que ça soit... Non. Après, j'aime bien aussi les choses modestes. Hein. Je fais aussi des choses très terre-à-terre et des vraies choses minutieuses, mais... il faut qu'il y ait un grand souffle, parce que sinon, j'ai pas assez d'énergie.
Comment vous aimeriez mourir très vieille?
Ben oui, parce que je trouve ça quand même assez affreux de devoir partir. Et
autant que ça le plus tard possible.
Voilà, j'espère que pouvoir faire des choses, ben, j'imagine que c'est l'eau beaucoup de gens, mais parfois j'entends des gens dire « Ah là, moi maintenant je me sens bien pour partir alors qu'ils sont jeunes ». Et c'est vrai que moi je me sens encore avoir envie de plein de choses à faire encore, donc j'espère pouvoir tenir encore longtemps.
Une dernière, si vous ne voulez pas commenter, parce qu'elle est un peu glaçante votre réponse. Quel serait votre plus grand malheur? Vous m'avez répondu « déjà arrivé ».
Ah oui, oui, oui. Ouais. Écoute, c'est ça, je ne peux pas en parler, c'est trop personnel. Hein.
D'accord. Donc, bon. Voilà. D'accord, très bien. Votre devise, une dernière, quand l'art sera plus varié, la nature sera plus variée. C'est d'Oscar Wilde.
Oui, ben ça, je suis tombée, en fait. Vous savez, j'étais assez proche de Brigitte Anguerrer, et donc j'ai aidé sa fille un peu à malheureusement vider son appartement. Et alors, je suis tombée sur un petit livre d'Oscar Wilde, qu'elle avait d'ailleurs beaucoup annoté, ça m'a touchée. Et il y avait cette phrase qu'elle avait soulignée, quand l'art sera plus varié, la nature sera plus variée. Et ça, c'est un petit peu aussi mon grand cheval de bataille. Je milite beaucoup pour que l'art s'ouvre davantage aux expressions. Mmh. Voilà, donc je pense que si les plateaux offrent des expressions différentes, je pense que la relation avec le public va devenir plus intéressante. Mmh. Et je pense que cette phrase résume un peu cette idée-là.
Vous avez parlé de Brigitte Angereur. Et ben justement, tiens, vous lui faire une sorte de petit clin d'œil. Un étrange bac revu par Franz Liszt avec quelques accords qui étaient à la fin justement plaqués par Brigitte Angereur. Et c'était vous-même, Laurence Equilbé, qui dirigeait les membres du chœur Accentus dans cet extrait du Via Crucis.
France Musique.
À 12h42, il est largement temps de parler alors de ce qui n'est pas l'antépénultième, mais le dernier, non, avant-dernier, ça y est, nous y sommes, disque d'Accentus avec l'orchestre de chambre de Paris, cette fois Félicien David, Le Désert, alors quand c'est paru il y a quelques mois, bon, on a vu ce truc-là arriver, on a vu encore une belle création du Palazzetto Bruzzani, qu'est-ce que ça va être que ce machin, et surprise, œuvre magnifique, réalisation formidable, enfin, grand beau disque, Laurence.
Merci, oui, c'était une très belle œuvre, je pense qu'elle est visionnaire aussi de ce que va être, même ça date d'avant l'Or du Rhin,
et de 1844,
ce que va être l'orchestration harmonique, par exemple de grandes harmonies qui durent et tout ça. Il y a beaucoup d'inventivité. Alors après, c'est une œuvre à numéro. Alors il y a aussi des côtés un peu exotiques parce qu'il a voulu un peu imiter la danse des Almées, tout ça, la nuit arabe et tout ça. Donc ça, c'est toujours un côté un petit peu exotique, mais sinon, il y a une vraie profondeur, il y a une vraie inventivité mélodique et surtout des essais d'orchestration très intéressants. Donc moi, ça m'a bien amusé. Enfin non, mais ça m'a vraiment intéressé de faire cette œuvre. Et puis, c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on a décidé de faire là récemment, dans ces ouvrages français un peu méconnus. D'ailleurs, l'année prochaine, on devrait faire une œuvre de Gounod qui s'appelle Le Saint-François d'Assise avec Stanislas de Barbeyrac, et qu'on enregistrerait aussi dans un programme qui s'appelle Légende, avec aussi la légende de Sainte-Cécile de Liste d'ailleurs, qui est aussi assez rare au disque et en français. Et Le Saint-François d'Assise, c'est vraiment une des œuvres très tardives de Gounod qui est absolument inédite, et donc on est très heureux de l'enregistrer aussi avec l'orchestre de chambre de Paris.
Vous n'aimiez pas les œuvres religieuses du 19e siècle?
Oui, mais alors là, justement, attendez. Justement, parce que là, c'est pas pour rien que je parle de Liszt, parce que on est plutôt dans une esthétique de l'épure, une esthétique comme ça, très très humble, pas du tout décorum, et en plus c'est dans la dernière partie de Saint-François d'Assise, c'est le moment de sa mort, donc évidemment c'est assez âpre, donc ça me plaît. Non, mais j'aime bien les choses jubilatoires aussi, mais je préfère Bach dans le jubilatoire, si vous voulez.
Je comprends. Le Gounod, c'est pas un peu
Il y a des choses de... Non, justement, c'est pas Saint-Sulpicien du tout. Alors, peut-être encore un tout petit peu, mais il y a vraiment des beautés, c'est très profond.
Ah ouais, on peut aimer ça quand même, le Sulpicien, oui, hein, oui. De toute façon. Hein. Oui. Enfin, ce désert de Félicien David, très belle chose, on va l'entendre un extrait ici. Vous parlez comme du côté exotique tout à l'heure, mais il est bien traité là-dedans. C'était peut-être le côté surprenant aussi de cette œuvre-là. C'est que là, il y avait presque la sensation d'une... Si c'était approprié finalement cet exotisme-là.
Oui, d'ailleurs, le chant du Muezzin, c'est quasiment copié d'un chant qui existe vraiment. Alors, un peu occidentalisé évidemment, parce qu'on n'a pas leur mode, mais il s'est visiblement beaucoup, beaucoup renseigné.
Ouais. Ah ouais. Voici la rêverie du soir. C'est l'admirable Cyril Dubois qui est dans ce liste.
Thank you.
La rêverie du soir, extrait du désert de Félicien David de Cyril Dubois, chanté ici avec les membres du chœur Accentus, l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Laurence Equilbé. Et c'est un disque paru il y a quelques mois, lui aussi sur label Naïve. La saison prochaine, Laurence, je dis bien la vôtre, hein?
Oui, bah il y a plusieurs choses. D'ailleurs, elle vient d'être mise en ligne sur mon site.
Ah oui, donc faut y aller.
Donc je vais pas embêter les auditeurs avec trop de détails, mais la première série, ça sera une série qu'on a appelée Magnificat, dans laquelle il y aura notamment le Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach, qui est quand même son chef-d'œuvre, qui est une série qui tournera.
Immense pièce en plus.
Oui, très belle pièce et qui tournera un peu partout, dont à l'ouverture du Barbican à Londres. Mmh. Et puis moi, j'ai une grosse activité Beethoven cette année, donc ça s'est trouvé comme ça. Et donc quelques projets un peu inédit, dont un avec l'Orchestre de Montpellier et avec un plasticien qui s'appelle Tal Isaac Haddad, et qui va travailler pour 40 minutes sur les extraits de Ruines d'Athènes, Roi Stéphane et Léonora Podprojka. Donc ça va être aussi intéressant. Toute cette période baroque, Beethoven, pardon, je dis baroque parce qu'il y a un programme qui s'appelle Baroque Plus à Francfort où il y aura aussi du Beethoven. Voilà. Et puis peut-être un projet, on a parlé de légende de Gounod, et puis un projet intéressant aussi, c'est le Lucio Silla de Mozart qu'on va mettre en espace avec une jeune metteuse en scène argentine qui s'appelle Rita Cosentino. Et ça sera aussi avec Franco Fagioli dans le rôle de Cecilio, et ça, on attend ça beaucoup. Et c'est un projet qui voyagera aussi beaucoup dans les Hauts-de-Seine, en France, mais aussi à Théâtre Andervin.
Haute scène qui vous accueille d'ailleurs pour l'Insula Orchestra, hein, c'est ça?
C'est ça, alors en fait, à partir de 2017.
Ouais. Ah ouais, vous serez où en 2017?
Ben normalement sur cette île.
L'île Séguin, c'est ça?
Oui, sur l'île Séguin. Là, ça monte bien, les travaux, ça monte, voilà. Ouais. Et puis voilà, ça c'était en grande partie avec Insula et avec moi, mais sinon Accentus a aussi beaucoup de projets, dont un projet avec un jeune chef anglais qui s'appelle David Betts, qui s'appelle donc un projet So British aussi autour de la musique anglaise. Et beaucoup de créations aussi contemporaines.
Voyage, disiez-vous, Laurence Equilbé. On va prendre le train, vous n'êtes pas tout seul, il y a un jeune homme en face de vous à qui il faut tout raconter de la vie.
Bah, c'est bien tous ces livres, hein, mais la seule chose que tu dois vraiment savoir, c'est ça.
Tutta morta fin à nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Dante. Toute connaissance sera morte dès l'instant où se fermera la porte de l'avenir.
Allez, relaxe-toi.
Je comprends pas, c'est obscur cette phrase quand même.
Là, tu vois, toute cette connaissance là, elle éclaire le futur. Sans avenir, toute cette connaissance devient inutile. Pas de futur, plus de connaissance.
Pas de futur, pas de connaissance. Alors il faut expliquer ce que c'est, Laurence, qu'on vient de voir. Là, c'est sur Internet qu'on est allé le chercher. Hein.
Oui, c'est une petite web-série, un logbook, un journal de bord qu'on a écrit avec Mohamed Bechrouri et Blandy Berthelot de nos équipes, qu'on a produit avec Brigitte Productions autour de ce disque Mantovani, ce qu'on avait fait d'ailleurs pour le Requiem de Mozart. Ouais. Et je trouve intéressant. Alors je crois qu'il y a 5 petits épisodes très très court, mais on a pris un petit peu l'option de copier 24 heures chrono, c'est-à-dire que ce jeune Lorenzo,
c'est 24 même, Bruno, en fait.
Oui, c'est ça. Le jeune Lorenzo a 24 heures pour, je l'invite au concert, il a 24 heures pour se mettre dans le bain de la musique contemporaine et essayer d'y comprendre quelque chose que lui, il connaît pas du tout cet univers. Donc, c'est assez savoureux parce qu'on a des échanges comme ça où on essaie de lui faire comprendre. Alors, il part avec beaucoup d'a priori, hein. Il part au concert avec ses boules-quièces quand même. Donc,
et à la tous fin. Tous les a priori qu'on a contre la création en général, c'est ça.
Et à la fin, il rentre chez lui et il fait un petit bilan personnel, voilà. Donc, bon,
quand même appris quelque chose aujourd'hui. C'est ça, en gros. Ce disque en question, donc consacré à Bruno Mantovani, s'appelle Voices, on en a parlé avec le compositeur qui était à votre place, Laurence, là, un mois ou deux à peine, qui rassemble encore une fois, mais c'est pas la première chez vous, il y avait déjà le cas avec du Sapin, avec Manori aussi, la trace d'un vrai travail qui se poursuit pendant des années avec un compositeur.
Ça c'était une dizaine d'années. Donc ça c'est les 4 pièces majeures qu'on a pu lui commander ces 10 dernières années. Et donc c'est un disque que j'ai co-dirigé avec Peter Yelle de Bourg, qui est un de nos chefs associés réguliers. Et il y a aussi des solistes comme Sonia Videra-Tarton et au violoncelle et Pascal Comté à l'accordéon. C'est un très beau disque, je trouve, vraiment.
Ouais, on peut le dire, on l'a dit déjà. Et ben on va l'écouter ici. Monde évanoui, le sous-titre c'est Fragments pour Babylone, musique de Bruno Mantovani. Donc ce sera une manière de vous dire merci, au revoir Laurence.
Merci beaucoup.
Un extrait de Monde évanoui, une pièce de Bruno Mantovani qui était ici enregistrée par le chœur Accentus. C'est Laurence Equilbé qui dirigeait ici ou c'est Peter Yelde de Beur?
Ah non, c'est Peter Yelde de Bourg.
De Bourg, hein. Voilà, c'est pas Laurence, mais elle était là quand même. Le disque est paru sous le titre Voices chez Naïve. Cette émission a été préparée par Aurélie Moreau, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Elisabeth Gornet et Xavier Attaud.